Avant d'écouter un nouvel épisode de Prolongation, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique en ligne de Calcio EPP. C'est sur www.calcioepp.shop. Et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien et européen. Milan, la Juve, l'Inter, Roma, Napoli, Real, Barça, Bayern, Manchester United, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, des sélections nationales et même beaucoup de vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast Prolongation et c'est à retrouver sur calcioepp.shop.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour décrypter leur métier et découvrir ce qui les fait avancer au quotidien. Durant environ une heure, nous discutons de multiples sujets et de leur métier pour mieux le décoder. L'idée est très simple, donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Des entraîneurs, des préparateurs physiques, des formateurs, des recruteurs, des agents, des joueurs et beaucoup d'autres encore passeront derrière mon micro dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je reçois Stevens de Gouville, éducateur au CS Bretigny Football, coordinateur technique des équipes U14 à U18 et en charge des relations de l'un des meilleurs clubs d'Île-de-France avec les centres de formation professionnelle. Nous sommes revenus sur ses débuts comme éducateur, son travail avec les jeunes du CS Bretigny et sur le rôle social du club francilien. Nous avons également évoqué sa gestion des relations avec les clubs professionnels, le partenariat avec la JOCR, ainsi que l'évolution des sollicitations pour les jeunes avec de plus en plus de personnes prêtes à tout pour faire tourner les têtes de ces footballeurs en herbe. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette conversation avec Stevens de Gouville. Bonjour Stevens de Gouville et bienvenue dans le podcast Prolongation.
Bonjour Johan.
Alors Stevens, dans ce podcast, on commence toujours par la même question. Est-ce que vous pouvez nous raconter un match qui vous a marqué? Alors il y a plein de manières de ressentir un match. Ça peut être par des sentiments, justement, des émotions, par un scénario, par un résultat, par un trophée. Alors ça peut être soit dans votre carrière d'éducateur, ou soit comme un simple spectateur ou même téléspectateur d'un match de football.
Écoutez, le match qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est ma première victoire en Coupe de l'Essonne lorsque je suis arrivé au CS Bretigny, où on jouait face à une équipe d'une division supérieure et où on a réussi à gagner ce match avec la victoire et la coupe au bout. Et ça a été un très très beau souvenir dans ma carrière d'éducateur.
Alors justement, dans la carrière d'éducateur, ça me fait penser à une remarque que j'avais une fois d'un éducateur qui me disait que pour lui, le parcours en coupe était quasiment plus important que le championnat. Comment vous ressentez parce qu'il y a toujours l'effet un peu de surprise, d'épopée, de jouer des clubs de division supérieure qu'il n'y a pas en championnat. Comment vous ressentez ça? Vous avez une vraie volonté à chaque fois aussi de marquer les coupes que vous disputez?
Plus important, je dirais pas ça, parce que nous, on est quand même au plus haut niveau régional dans toutes les catégories. Après, les coupes, ça reste une aventure particulière, que ce soit pour les éducateurs ou que ce soit pour les joueurs. Ce sont des matchs à élimination directe, forcément avec un titre au bout et un trophée. Donc forcément, ce sont des aventures particulières qu'on aime tous jouer et qu'on essaye tous de jouer à fond.
Alors, avant de devenir éducateur, je voudrais essayer de comprendre d'où vient votre passion pour le foot. Parce qu'évidemment, quand on est éducateur, on est encore plus passionné que les passionnés de foot. Quel était votre rapport au foot quand vous étiez enfant ou adolescent? Est-ce que vous étiez simple fan? Est-ce que vous le pratiquiez? Quel était votre rapport au foot?
Alors oui, moi j'étais fan de foot. J'ai joué au foot très jeune. Je crois que j'ai dû commencer le foot, j'avais 6 ou 7 ans. J'ai été joueur de foot jusqu'en senior, et puis après j'ai embrassé une carrière d'éducateur.
Vous êtes arrivé au poste d'éducateur à travers, à la fin de votre carrière de footballeur. Quelles ont été vos motivations principales pour entrer dans cet univers-là, dans ce monde-là? C'est quelque chose que vous avez déjà repéré un peu au fur et à mesure, enfant, adolescent, ensuite senior, quand vous jouiez au foot, vous aviez envie de, voilà, de transmettre, d'expliquer, de faire progresser aussi des jeunes?
C'est exactement ça en fait. J'ai toujours été un petit peu leader dans mes équipes, dans les équipes où j'ai joué. Et arrivé à un moment donné, j'ai eu envie de transmettre aux jeunes des choses que j'avais appris moi-même par mon expérience et puis par les entraîneurs que j'avais eu auparavant. Et puis j'ai rapidement aussi, dès le départ, j'ai rapidement compris que il y a beaucoup d'éducateurs qui faisaient ça pour l'argent, et moi pas. Je l'ai fait par passion. Parce que j'avais envie de découvrir ça, et j'avais envie de transmettre des valeurs. J'étais aussi un petit peu passionné par tout cet aspect tactique, et donc du coup ça m'a permis d'évoluer à ce niveau-là.
Qu'est-ce qui vous a le plus surpris quand vous avez commencé comme éducateur? Du coup, c'est le côté avoir les connaissances et compétences d'un entraîneur. Je parle là de terrain, c'est-à-dire tactique, lecture du jeu, comprendre ce qui se passe dans un match, etc. Ou ça a été savoir détecter le talent des jeunes joueurs, des adolescents, des enfants, des joueurs un peu plus âgés. Ou est-ce que ça a été le côté relationnel, ressources humaines, management, comment s'adresser à des enfants, comment s'adresser à des adolescents, qu'est-ce qui a été le plus difficile à appréhender entre guillemets?
Bah moi j'ai pas commencé par le plus facile puisque j'ai commencé avec des U18.
Ouais.
Donc c'est vrai que c'est un parcours qui est un petit peu particulier parce que d'habitude on commence toujours par des plus petits. Donc moi j'avais un petit peu tous les éléments que vous venez d'énoncer en même temps. C'est-à-dire que j'ai eu au départ cette idée d'aller chercher des joueurs pour essayer de construire une équipe compétitive pour essayer de grimper de division. En même temps j'ai eu cette envie de transmettre des éléments et de faire progresser des garçons. Pour faire tout ça, il fallait avoir un côté management qui n'était pas forcément évident puisqu'il fallait mettre des choses en place et notamment dans les petits clubs puisque moi j'étais dans un tout petit club donc que je remercie d'ailleurs encore aujourd'hui parce que c'est grâce à eux que je suis arrivé là où je suis aujourd'hui.
Quel était ce club du coup?
C'était Idville dans l'Essonne.
D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, vous êtes donc éducateur au club sportif Brétigny Football, le CS Brétigny, qui est réputé pour être l'un des meilleurs clubs d'Île-de-France. Vous êtes également coordinateur technique des équipes U14 et U18. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos principales missions? On entrera un peu dans le cœur du sujet un peu plus tard et on détaillera un peu toutes vos missions, mais voilà, votre quotidien, comment se compose votre quotidien au sein du CS Brétigny?
Ben, mon rôle il est simple, il est de coordonner nos équipes de jeunes des U14 aux U18, ce qui passe par le recrutement des joueurs, le recrutement aussi des éducateurs en adéquation avec la politique du club et le manager général Didier Briand. Je dois aussi faire en sorte que les meilleurs joueurs jouent dans les meilleures équipes à leur niveau.
Au niveau du recrutement, vous notez une concurrence féroce entre clubs d'Île-de-France pour essayer d'avoir les meilleurs jeunes joueurs. Comment ça se passe le processus de recrutement? Vous êtes en compétition avec beaucoup de clubs, vous êtes sur un bassin très restreint ou vous allez sur toute l'Île-de-France?
Alors, pour répondre à votre question, faut savoir que en Île-de-France, on est la région mondiale, la deuxième région mondiale où on a le plus gros vivier.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a le premier, il est au Brésil, le deuxième, il est chez nous, il est en France, en Île-de-France. Donc forcément, on a forcément une concurrence importante. Ensuite, le niveau auquel on joue dans toutes les catégories de jeunes et même en senior, nous demande forcément d'avoir une organisation. Et nous, on a une organisation particulière par rapport aux autres clubs en Île-de-France, voire même en France pour certains. Nous, on a la chance d'avoir un sport-études, une section sportive qui va de la sixième jusqu'à la terminale,
D'accord.
avec un internat, ce qui nous permet effectivement d'avoir des joueurs qui viennent de toute l'Île-de-France. On a notre objectif aussi, il est d'avoir les meilleurs joueurs de l'Essonne pour pouvoir jouer dans nos meilleures équipes de jeunes, puisque on est au plus haut niveau des U14 aux U18 et en 17 ans, nous avons les 17 ans nationaux depuis plus de 25 ans.
D'accord. Alors, dans une fonction d'éducateur, il y a deux mots qui sont très importants. Si on essaye, enfin, il y a deux parties dans le job d'éducateur. Il y a évidemment un aspect terrain, c'est le sportif, développer des jeunes footballeurs, les aider à progresser, obtenir des résultats sur le terrain, etc. Mais il y a un autre mot qui est peut-être encore plus important, c'est lié à l'éducation, avoir un rôle social, parce que on sait très bien qu'il y a beaucoup de jeunes enfants qui jouent au football, il y a beaucoup de jeunes enfants qui rêvent de passer des caps, de pouvoir vivre de leur passion et de devenir professionnel, sauf qu'on sait que malheureusement ce sera pas le cas de tout le monde et qu'il y a une énorme part de tri entre guillemets au fur et à mesure hein, des échelons qu'on monte entre club amateur, entrer dans un centre de formation professionnel, déjà réussir à sortir du centre de formation professionnel, ensuite atteindre l'équipe première, ensuite rester au plus haut niveau. Où est-ce que vous mettez la jauge entre le sport, le côté sport terrain et l'éducation au quotidien à Brétigny? Comment vous réussissez à concilier les deux? On sait que c'est pas toujours évident, on sait que les jeunes sont souvent quand même plus axés sur le terrain, donc ils ont tendance à délaisser un petit peu, entre guillemets, les études, mais en même temps, faut les préparer quand même à en cas d'échec, à devenir des bons citoyens. Donc, comment vous mettez la jauge entre les deux?
Nous, c'est un petit peu particulier parce que, comme je vous ai dit, on a une structure qui nous permet d'allier l'école avec la pratique du football. Et on a aussi les garçons qui viennent au club, qui sont au club. Donc, à Brétigny, on a des valeurs qui sont celles du travail, du respect, de l'humilité et de la progression. Donc l'idée, elle est simple. On se doit de travailler et d'être heureux de travailler. Les garçons, quand ils viennent jouer au foot, ils doivent être heureux de venir jouer au foot. Et en fait, on essaie de les faire progresser en étant heureux. Mais à côté de ça, il est vrai que notre rôle premier, et le nom l'indique, nous sommes des éducateurs. Avant d'être des entraîneurs de foot, nous sommes des éducateurs. Donc on a forcément un rôle social. Savoir comment vont les garçons, comment ils sont dans leur famille, comment est-ce qu'ils vont venir à l'entraînement, comment est-ce qu'ils vont rentrer de l'entraînement. Voilà, tout ça, ce sont des éléments qu'on est obligé de gérer.
Et dans la section sport-études, justement, vous êtes en relation constante. Disons qu'il y a une vraie passerelle entre scolarité et terrain. Il y a des rendez-vous réguliers pour comprendre parfois pourquoi ça va pas à l'école ou pourquoi ça va bien. Essayer de faire comprendre aux garçons que bah, c'est très important d'être bon à l'école aussi et pas seulement être bon sur le terrain. Voilà, il y a tout un travail comme ça qui est fait, j'imagine, de suivi à Brétigny.
C'est obligatoire. C'est obligatoire. On a des personnes qui sont responsables de ça, qui font des suivis, notamment et le lien entre l'école et le terrain, avec les éducateurs. Et les garçons sont obligés de s'y plier parce que sinon ça peut pas fonctionner. On est un substitut des parents de temps en temps.
Ouais, clairement. C'est même parfois une difficulté d'ailleurs, hein. C'est que
Tout à fait.
c'est comme avec les professeurs entre guillemets hors sport-études, hein, les professeurs de collège et lycée, où on a parfois un peu l'impression que les parents pensent que les professeurs vont faire toute l'éducation de leur enfant.
Exactement ça.
Et c'est vrai que ça c'est une difficulté supplémentaire en plus pour vous parce qu'en dehors du terrain, il y a aussi la scolarité et il y a aussi l'éducation générale qui n'est pas toujours faite. On sait que après c'est pas évident aussi de toujours être parfait avec ses enfants, voilà, il n'y a pas de leçons à tirer ou de leçons à donner, hein, surtout pas. Mais vous avez un rôle qui est capital dans l'éducation des élèves.
C'est un rôle obligatoire. C'est-à-dire que nous sommes avant tout des éducateurs, je le répète. Et avant même de parler de compétition ou de parler de résultats, on a un rôle d'éducation. C'est-à-dire que les garçons, quand ils viennent, ils ont des valeurs à respecter, ils doivent dire bonjour. Moi, je suis toujours très surpris lorsque j'ai des parents qui viennent me voir et qui me disent, oh là là, eh ben dis donc, chez vous, c'est bizarre parce que tous les garçons disent bonjour à tout le monde. Moi, ça me surprend énormément parce que pour nous, c'est la base, quoi.
Et vous avez l'impression qu'on a un peu une mauvaise image. Est-ce que la mauvaise image de certains footballeurs professionnels redescend jusque dans les clubs amateurs avec des parents qui pourraient être susceptibles de d'avoir des réticences à mettre leur enfant dans des clubs de foot, à les inscrire, etc. Est-ce que vous avez le sentiment, parce qu'on sait que le voilà, le alors ça c'est un peu mieux maintenant, mais au début des années 2010, fin des années 2000, début des années 2010, le footballeur avait une très mauvaise image en France, dans l'opinion publique notamment. Est-ce que vous avez ressenti cette vague-là, du coup, même au niveau amateur?
Bien sûr. On a toujours forcément l'exemple, il vient d'en haut. Je veux dire, quand on a des professionnels qui gagnent la Coupe du Monde et qui aujourd'hui se comportent correctement sur le terrain et en dehors du terrain, et qui sont médiatisés, forcément, ça rejaillit sur nous, sur le monde amateur. Quand c'est tout l'inverse, ça rejaillit aussi sur nous, sur le monde amateur.
Et justement, on y viendra un petit peu plus tard, mais Bretigny a vu passer pas mal de très bons joueurs et qui sont passés professionnels depuis. Est-ce que vous gardez un lien avec eux dans cette volonté de leur rappeler aux joueurs professionnels d'où ils viennent? Ça peut être aussi une vraie méthode aussi d'organiser des rencontres avec les jeunes footballeurs pour se rappeler d'où ils viennent. Et puis à la fois, l'autre versant, c'est pour les jeunes footballeurs, montrer que c'est possible de réussir aussi à Bretigny, c'est possible d'être des bonnes personnes et d'être un footballeur et d'être un footballeur un très bon citoyen et de pas être déconnecté de la réalité, de la société, etc.
Bien sûr, nous, vous savez, on a des joueurs aujourd'hui qui ont signé dans des clubs professionnels, qui ont passé leur bac à Bretigny.
D'accord.
Donc il y a rien de péjoratif à ça, bien au contraire. On a une structure aujourd'hui qui nous permet d'être présent et de faire en sorte que les garçons évoluent et qu'ils évoluent positivement.
Alors dans le rôle d'éducation, on le disait, il y a la volonté de faire de ces jeunes de bons citoyens, respectueux, bien dans leur peau aussi, parce que c'est un élément qui est très important. On a plus de chances de réussir dans la vie si on est bien dans nos baskets ou bien dans nos chaussures de foot. Est-ce que vous les sensibilisez également sur des thématiques qui, au premier abord, sont un peu hors terrain, mais qui en fait ont une grande importance pour à la fois une éventuelle future carrière de footballeur, mais aussi pour être un bon citoyen, comme l'alimentation, le sommeil, la récupération, faire attention à toutes ces choses qui peuvent revêtir vraiment une importance capitale pour la suite de l'évolution de ces jeunes-là? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils découvrent un peu plus tard quand ils rejoignent des centres de formation professionnels?
Non. Aujourd'hui, il faut comprendre que entre le lien social et le lien sportif, il y a une vraie passerelle.
Ouais.
Et l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Donc, du coup, nous, au niveau du sportif et par rapport au niveau où nous on joue aujourd'hui à Bretigny, on a forcément une exigence qui nous demande d'inculquer aux garçons des valeurs sociales. Donc, il y a un vrai lien qui se fait à ce niveau-là et qui nous permet aujourd'hui, en inculquant ces valeurs qui sont incarnées par le club, hein, et notamment par les présidents qui sont passés, par Didier Briand qui a monté aussi toute cette structure, toutes ces valeurs-là doivent être transmises pour pouvoir atteindre le haut niveau.
Et vous les sentez très réceptifs sur ces domaines-là, sur l'alimentation, le sommeil,
Ils n'ont pas le choix parce que ça va forcément se ressentir sur leur performance sportive. Donc, dès qu'on commence à lâcher, je prends l'exemple d'un joueur qu'on a eu qui a eu une prise de poids un petit peu supérieure à la moyenne, forcément, ça s'est ressenti sur ses performances sportives, ça a engendré des blessures. Et donc, il a rapidement compris que s'il faisait pas attention à son alimentation, il n'allait pas pouvoir rejouer au niveau où il jouait avant. Et c'était un joueur qui jouait en 17 ans nationaux quand même. Donc, vous voyez, il y a des garçons. Nous, les éducateurs, on a un rôle, notamment à Bretigny, de progression, pour faire progresser les garçons. Mais dans le rôle social, tout ce qui va être sommeil, nourriture, ponctualité, tous ces éléments-là sont des éléments qui nous permettent de les préparer à aller au haut niveau, au très haut niveau.
Alors le monde du foot, il évolue et un des bienfaits de cette évolution, notamment technologique, c'est que ça offre aujourd'hui des possibilités, des vraies possibilités, même pour des clubs qui ne sont pas professionnels avec peu de moyens. Alors on va s'entendre sur le peu de moyens, ça reste toujours des moyens à débloquer et on parlera un petit peu tout à l'heure du côté financier pour les clubs non professionnels dans la gestion quotidienne, mais il existe aujourd'hui des outils pour améliorer la performance. Alors c'est à la fois des outils techniques, technologiques, ou ça peut être aussi des ressources humaines. Je vous prends un exemple de ressources humaines, c'est par exemple faire venir un ou une nutritionniste du sport, dispenser des cours magistraux, faire des rencontres avec les jeunes footballeurs pour expliquer justement l'importance de la nutrition, etc. Ça peut être aussi des outils techniques et technologiques comme un système de vidéo. Il y a des sociétés spécialisées qui permettent aujourd'hui d'installer une caméra fixe sur un terrain, d'enregistrer ça, même pour des U12, U14, U16, U18, U17, peu importe, d'avoir des enregistrements automatiques, ensuite avec des systèmes de pouvoir clipper les moments importants d'un match, de pouvoir les clipper par joueur, pouvoir faire des compilations et les montrer aux jeunes joueurs, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez, et ça peut avoir deux bienfaits en fait. Le premier, c'est pour les joueurs évidemment, parce que ça leur permet de se rendre compte avec un œil extérieur en revoyant certaines actions de ce qu'ils ont fait de bien, évidemment, parce qu'il faut insister aussi sur le bien, et ce qu'ils ont fait de moins bien et qui les marges de progression associées à tout ça. Et puis il y a aussi pour les éducateurs, parce que un éducateur est un passionné. Moi, je pense que par essence, un éducateur est forcément une personne curieuse, qui a envie de progresser, envie de se former en continu. Est-ce que vous utilisez un peu ce genre d'outils ? Alors là, j'ai pris la vidéo, mais est-ce que ça peut être sur autre chose ?
Alors, moi, je pense tout d'abord, et c'est une vision très personnelle, qu'il faut laisser le temps au temps, chaque chose en son temps, en fait. Sur des U12, U13, mettre de la vidéo sur des U12, U13, par exemple, je vois pas vraiment l'intérêt. Il faut pas qu'on oublie cette notion de plaisir. Les garçons, quand ils viennent jouer au foot, il faut qu'ils aient du plaisir. L'une des notions que nous a inculqué notre manager, c'est progression dans le plaisir. Donc, avant, il n'y avait pas la vidéo. Maintenant, il y a la vidéo. Je trouve que c'est très bien, mais elle doit être adaptée à certains niveaux. Je veux dire, mettre de la vidéo pour nos équipes 3 ou nos équipes 4, je vois pas spécialement j'y vois pas spécialement un intérêt absolu. En revanche, par contre, pour nos équipes d'élite, peut-être un petit peu plus. Donc oui, on a en prévision et on a aussi la chance d'avoir déjà, notamment sur notre équipe senior en National 3, déjà ce type d'installation qui est utilisé. Mais en termes de progression, on a des éducateurs qui sont diplômés, qui forcément préparent leurs séances d'entraînement. On est nombreux sur les séances d'entraînement, nombreux sur les matchs. On a des réunions techniques régulières avec notre manager général. Tout ça permet l'évolution et des éducateurs et des joueurs.
Bretigny, je le disais tout à l'heure, est partenaire de la JOCR, mais sur le plan du football plus global, Bretigny a vu passer de nombreux jeunes ayant réussi à devenir professionnel. Je vais en citer quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres. On va citer les plus connus, Jérémy Ménès, Sébastien Allaire, Patrice Evra, Mehdi Benatia et beaucoup d'autres évidemment. Il y a une vraie passerelle entre le CS Bretigny et les clubs professionnels. D'ailleurs, c'est une vraie image de marque, hein, une vraie réputation qu'a Bretigny aussi dans le milieu du football. C'est que il est en capacité d'aider des jeunes à bien progresser, à bien travailler, à former des bons jeunes à la fois sur le terrain mais hors terrain avec des têtes bien remplies. Une de vos missions au sein du CS Bretigny, c'est donc d'être en lien avec les clubs professionnels. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre mission de ce côté-là?
Alors oui, je vais vous expliquer aussi pourquoi le club a décidé de faire ça, de mettre une personne chargée des relations avec les clubs professionnels. C'est parce que aujourd'hui, le foot change. Le foot change, le foot d'il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, et le foot d'aujourd'hui change. Et on s'aperçoit aujourd'hui que dans nos compétitions, il y a énormément de recruteurs, énormément d'agents de joueurs, énormément de personnes extérieures au club. Et on s'aperçoit que parfois, très souvent, les garçons, ils ont un petit peu du mal à gérer ça avec les familles. Donc, à Bretigny, on a décidé que les éducateurs restent sur leur catégorie, sont bien évidemment au courant des sollicitations des garçons de leur groupe, mais que toutes les relations avec les clubs professionnels soient gérées par une personne, de façon à ce que cette personne centralise les demandes et que ce soit fait dans l'intérêt des garçons. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, par exemple, si vous avez un joueur, un U14, qui est sollicité par quatre clubs une semaine, on peut pas lui demander de rater un mois d'école. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, mon rôle, il est d'être en relation avec les centres de formation, de caler sur les vacances scolaires ou sur des jours où les garçons n'ont pas école, pour que les garçons puissent aller faire leur essai, soient vus dans les meilleures conditions et que ce soit bénéfique et pour les clubs et pour le club, pour les clubs pro, pour nous, le club Bretigny, et pour les garçons.
Et on sait qu'en France, la formation est évidemment très importante, elle est d'ailleurs d'une très grande qualité. Est-ce que vous avez vu au fur et à mesure des années, là, depuis que vous êtes au club, monter l'intérêt de clubs professionnels pour les clubs amateurs, pour les joueurs de clubs amateurs, pour essayer de... On a l'impression qu'il y a une espèce de course sur le fait de pouvoir dénicher les meilleurs talents de demain de plus en plus tôt. Je veux dire...
Ah, bien sûr.
Il y a 10 ans, on voyait pas des clubs recruter des U10 ou des U11.
Bien sûr.
Là, on a l'impression qu'aujourd'hui, plus on peut aller chercher les jeunes tôt, avec autant d'incertitudes, je veux dire, plus c'est tôt, plus il y a d'incertitudes, plus il y a le risque aussi de déraciner l'enfant, puisque là, à 10-11 ans, on n'est pas un adolescent, hein, on est un enfant. Est-ce que vous, comment vous jugez cette évolution?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Sincèrement, je le dis, j'ai du mal à comprendre ça parce que je ne vois pas, faut savoir que un garçon a, je vois pas comment est-ce qu'on peut dénicher un potentiel à 10 ou 11 ans et savoir qu'un garçon va devenir footballeur professionnel. Quand on sait la somme de travail que ça demande, en termes de progression tactique, technique, physique, je ne vois pas comment est-ce qu'à 10, 11 ans, on peut dire ce joueur-là, il va devenir professionnel. On en voit tellement passer, des garçons qui sont talentueux et qui ne réussissent pas. Et je pense que c'est là où nous, on a un vrai rôle à faire, c'est d'accompagner les garçons pour leur expliquer qu'il n'y a pas que le foot dans la vie. Donc, c'est vrai que les clubs professionnels, sont attirés par effectivement le joueur qui pour avoir le meilleur joueur en premier, ça c'est vrai. Mais des fois ils se soucient pas forcément de l'intérêt des garçons. Si on va dire à un club pro par exemple tel joueur a déjà fait un essai pendant une semaine dans un club, il va nous dire bah envoie-le-moi la semaine d'après. Il va pas se demander s'il doit se reposer une semaine. Donc, c'est aussi ça qui est... Et puis les garçons, eux, ils ont qu'une idée en tête, c'est de signer en club pro. Donc, si on leur explique pas pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils aillent faire un essai à cet endroit, un essai à un autre endroit, et qu'entre-temps, il faut qu'ils se reposent parce que sinon, ils vont pas pouvoir faire des essais concluants, c'est compliqué. Vous comprenez?
Oui, bien sûr. Alors, une question un peu délicate, parce que j'imagine qu'il y a plein de facteurs, mais avec votre expérience et votre position d'éducateur, vous estimez que c'est vraiment à quel âge que les jeunes enfants sont en capacité de répondre favorablement sans être trop perturbés, sans être trop ennuyés à des sollicitations de clubs professionnels. À votre avis, à quel âge il faudrait concrètement, à quel âge il faudrait que limiter l'envoi des jeunes dans des centres de formation professionnelle, dans des structures professionnelles où on sait que c'est difficile de s'imposer et que parfois c'est à 500 km du domicile, etc.
C'est exactement ça. On oublie souvent que les garçons, ils n'ont des fois que 13, 14, 15 ans, même 16 ans, et que c'est compliqué pour eux de déménager, de partir loin des parents. Il y en a pour qui ça se passe très bien, mais il y en a d'autres pour qui c'est très compliqué. Donc, moi, pour moi, je pense que l'âge idéal, c'est 16 ans. Et là, aujourd'hui, il y a une nouvelle règle, une nouvelle loi qui a été mise en place. Les garçons peuvent plus partir à plus de 100 km de leur domicile avant leur année du 15. Avant leur année du 16. Donc, après les U15. Donc, je trouve que ça, c'est très bien parce que ça nous permet de garder un environnement sain psychologique pour les enfants.
Je vais vous raconter une petite anecdote, j'en profite. Il y a un jeune joueur suédois qui s'appelait Martin Bengtsson, de mémoire, qui est parti à 16 ans à l'Inter, en Italie donc, qui était un des joueurs les plus prometteurs. Il avait fait des essais à Amsterdam, à Chelsea, etc. Et il est arrivé en Italie à 16 ans. Et on pense pas à ça quand, en fait, quand on est jeune, parce qu'on se dit, bon, on va jouer au foot, quoi qu'il arrive, on arrive, on joue au foot, donc c'est quand même du football, etc. Lui, malheureusement, assez rapidement, il se blesse. Et le problème, c'est qu'un jeune étranger dans un pays, alors du coup, oui, il est étranger dans ce pays-là, entre guillemets, là, le jeune Suédois était à l'étranger, en Italie, seul, isolé, il pouvait plus faire sa passion parce qu'il était blessé, alors c'était une blessure assez sérieuse, hein, c'était les croisés, la fameuse blessure du footballeur, il a commencé à déprimer, parce qu'il était privé de sa passion, il était tout seul. Alors c'était au début des années 2000, hein, donc il n'y avait pas toutes les facilités WhatsApp, vidéo, etc. pour être en relation avec ses parents, ses copains, etc. Il a commencé à déprimer et il en est arrivé à faire des tentatives de suicide. Et ensuite l'Inter lui a adjoint entre guillemets une psychologue. Et pour vous dire parfois à quel point les structures professionnelles peuvent être déconnectées en termes de gestion de jeunes footballeurs, de jeunes adolescents, même avant d'être des footballeurs. La psychologue lui avait dit, il avait raconté ça dans un entretien à la BBC, la psychologue lui avait dit, tu joues au football dans l'un des plus grands clubs du monde, tu gagnes beaucoup d'argent, tu as déjà une voiture, et tu peux même coucher avec n'importe quel top modèle, pourquoi t'es déprimé? Et en fait, ils se rendent pas compte qu'un enfant de 16 ans, déraciné totalement, parce que là c'était dans un autre pays, c'est même pas à 500 km du domicile, hein, c'est à 2000-3000 km du domicile, privé de sa passion, bah en fait il a plus rien pour lui entre guillemets, et donc c'est en ça que c'est difficile de demander à des jeunes enfants de tout quitter pour le rêve de devenir footballeur professionnel. Et c'est là aussi où les clubs amateurs, mais les éducateurs, mais aussi les parents ont un rôle essentiel pour ne pas plonger totalement dans cet espoir de devenir professionnel et de bien mesurer les risques et de bien mesurer l'âge auquel il est plus convenable d'aller dans ce genre de structure.
On est entièrement d'accord. Et faut dire aussi que les clubs pro, quand les garçons sont encore dans le monde amateur, effectivement, il y a une vraie bagarre. Il y a une vraie bagarre où on s'aperçoit des fois que nous, on est obligé de gérer un petit peu ça, parce que sinon ça devient n'importe quoi. Et c'est notamment pour ça que le club a décidé de me mettre à cette fonction là. Après, quand les garçons partent en club pro, effectivement il y a des suivis psychologiques qui sont faits, et quand ils intègrent les structures, il y a des choses qui sont mises en place où c'est vraiment beaucoup plus poussé, quoi. Et ça, c'est vrai.
Et pour reprendre l'anecdote, parce que j'ai oublié une partie en fait, ce jeune footballeur a décidé de travailler avec la Fédération suédoise de football pour faire des réunions et des sortes de cours magistraux avec les jeunes footballeurs suédois qui sont courtisés par des clubs européens, pour les prévenir entre guillemets de ce qui peut les attendre, pour faire un peu de prévention. Alors ça veut pas dire surtout n'allez pas à l'étranger, parce que chacun réagit de manière différente aussi. Chacun, il y a des personnalités très différentes, il y a des gens qui s'adaptent mieux que d'autres, mais au moins c'est une prévention pour essayer de leur montrer ce qui peut aussi se passer, que tout n'est pas rose, qu'il y a plein d'éléments qui peuvent venir perturber une progression.
Je trouve ça très bien. Je trouve que c'est une vraie bonne chose. Après, nous, on est, vous savez, les garçons, quand ils ont 14 et 15 ans et que vous leur dites le meilleur pour toi, c'est pas de partir tout de suite en centre de formation, c'est plutôt quand tu auras 16 ans, ils disent le coach, qu'est-ce qu'il me raconte. eux, ils pensent comme ça. Parce qu'à 14-15 ans, ils ne peuvent pas savoir ce qui est le meilleur pour eux. Et eux, leur seul objectif, c'est de devenir professionnel. Donc leur seul objectif, c'est d'intégrer un centre de formation.
C'est normal, ils n'ont pas cette conscience-là. On ne peut pas l'avoir à 14 ans, cette conscience.
Et c'est là où le rôle des éducateurs est primordial, avec le rôle des parents surtout. Parce qu'au final, les éducateurs ne décident de rien, c'est les parents qui décident. Et nous, on a juste un rôle de conseil. Et moi, c'est ce que j'explique aux parents. Un garçon de 13, 14, 15 ans, lui, il a qu'une envie, c'est d'aller en centre de formation. Sauf qu'il sait pas comment ça se passe là-bas. Il sait pas comment ça va être compliqué. Il a beau se dire, je suis fort, mais il sait pas que des comme lui, il y en a 30 et que tous ils ont le même but. Donc, plus tard ils partent, mieux c'est. Et plus, de toute façon, la statistique, elle est claire. Plus les joueurs partent en centre de formation tard, plus ils ont des chances de devenir professionnels.
Alors justement, vous êtes partenaire, Brétigny, le CS Brétigny Football, partenaire de d'un excellent centre de formation, la JOCR, alors qui est pas aussi performant qu'à l'époque, années 90, début 2000, mais qui reste quand même un centre de formation d'excellence et souvent d'ailleurs toujours dans le top 10 des centres de formation français. C'est depuis 2003, donc ça fait déjà très longtemps, sachant que Brétigny était d'abord affilié, ou enfin avait un partenariat avec le Stade Rennais auparavant. Ce partenariat a été renouvelé pour 5 ans en janvier 2020, donc s'il va au terme, il n'y a pas de raison qu'il n'aille pas au terme, ça fera 22 ans déjà de partenariat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les contours de ce partenariat et au-delà du fait d'envoyer des jeunes en détection, notamment à la JOCR, s'il y a par exemple des collaborations techniques entre éducateurs, s'il y a des contacts fréquents, si des matchs selon les catégories sont organisés, ce genre de choses-là?
Au-delà du partenariat avec un club professionnel, le partenariat avec la JOCR est un partenariat très fort. Comme vous venez de le dire, on a renouvelé le partenariat pour 5 ans, donc c'est très rare déjà, parce que des partenariats entre clubs professionnels et les clubs amateurs sur 5 ans, c'est des partenariats longue durée. Ça n'existe quasiment pas. Donc c'est quand même très important. Nous, on a un partenariat privilégié avec la GA, mais pas exclusif. Que c'est un partenariat qui est très important pour nous. Ça veut dire que nos meilleurs jeunes sont vus par la GA, mais les autres clubs professionnels ont un droit de regard chez nous, et on a des joueurs qui signent dans tous les clubs de France et voire à l'étranger. Donc on n'a pas de souci avec ça. C'est pas parce qu'on est en partenariat avec la JOCR que les autres clubs professionnels français et étrangers n'ont pas le droit de venir à Brétigny. C'est bien l'inverse d'ailleurs.
Et au niveau du partenariat, du coup, est-ce que vous avez des collaborations entre éducateurs? Est-ce que par exemple il y a des éducateurs de la GIA qui reçoivent ceux de Brétigny ou qui viennent à Brétigny, je sais pas, pour...
Alors, on a des réunions techniques qui se font à la GIA. On a aussi un responsable qui vient de la GIA, qui vient sur nos structures à Brétigny pour voir les éducateurs et puis pour parler un petit peu plus du terrain. On a forcément des matchs amicaux qui sont organisés entre les catégories contre les équipes de la GIA. Donc oui, c'est un vrai partenariat fort à tous les points. Malgré le fait que la GIA soit en Ligue 2, c'est quand même un centre de formation qui est dans les 6 meilleurs centres de formation de France depuis des années.
Alors ce partenariat, il a débouché sur des tests d'une centaine de joueurs qui ont été testés par la GIA, signature d'une trentaine d'entre eux à Auxerre, avec presque une dizaine de contrats professionnels signés à Auxerre. Et là, je parle seulement des joueurs qui ont fait la passerelle entre les deux clubs et qui ont signé professionnel à Auxerre, parce qu'il y en a d'autres qui ont quitté Auxerre et qui ont signé professionnel ensuite. Je vais citer là encore quelques noms, une espèce de name dropping habituel: Sébastien Allaire, Paul-Georges Entep, Florian Haillé, Jean-Charles Castelletto, Donovan Léon, Yanis Begraoui, qui est un des derniers, entre guillemets, qui a émergé.
Tout à fait.
Donc c'est non seulement un partenariat qui dure, parce qu'on le dit, hein, ça va bientôt atteindre les 20 ans, mais c'est aussi qui marche. La preuve en est, c'est que la GIA a réussi à, dans les joueurs qu'elle a sélectionnés à Brétigny, les tests qui ont été passés, les entrées en centre de formation, il y a quand même une dizaine de joueurs quasiment qui ont signé professionnel et qui ont joué professionnel à la GIA.
Il y a 11 joueurs formés au CSB qui sont devenus pros à la GIA, très exact, pour être très précis sur le chiffre. Il y a plus de 110 joueurs qui ont fait des tests à la JOCR. De mémoire, je crois qu'il y a une année, il y a 6 joueurs alignés sur la feuille de match de la JOCR qui venaient du CS Brétigny.
D'accord.
C'est quand même exceptionnel d'avoir 6 joueurs formés dans un club amateur sur une feuille de match d'un club professionnel. Donc oui, on a ce lien là et cette volonté là. Mais pas uniquement au niveau sportif. Je pense que le partenariat aussi entre la JOCR et le CS Brétigny est un partenariat basé sur des valeurs et des valeurs communes. C'est aussi, on a une vraie proximité de stade à stade. Je crois qu'il y a 1h30.
Ouais.
Donc effectivement, lorsqu'on avait le partenariat avec le Stade Rennais, c'était un petit peu plus loin, quoi. Vous voyez, donc il y a des vraies valeurs qui sont partagées entre la JOCR et le CSB. Des valeurs familiales, des valeurs du bien-être des garçons. Et lorsqu'on va là-bas, on ressent exactement la même chose et on partage exactement les mêmes idées que à Brétigny lorsque je venais au Stade de Lille.
Et quels sont les retours que vous font les éducateurs après des discussions avec des éducateurs d'Auxerre, des responsables de formation de la GIA? Comment sont les retours?
Ils sont toujours demandeurs.
Ouais.
Ils sont toujours demandeurs et ils apprécient tout le temps d'avoir justement cet échange avec des éducateurs et des entraîneurs d'un club professionnel. Donc, ils sont, que ce soit en U14, en U15, en U16, voire même en 17 ans, ils sont toujours demandeurs. Donc, ça se passe toujours bien.
Et puis il y a un détail moi qui m'a marqué et que je trouve assez révélateur quand même, c'est que lors de la soirée, là c'était en janvier hein, je crois, le renouvellement du partenariat entre Brétigny et Auxerre, il n'y avait pas seulement les responsables de la formation de la GIA, il n'y avait pas seulement des personnes de la formation, c'est le président Grail s'est déplacé,
Tout à fait.
le directeur sportif de l'équipe professionnelle, enfin il chapeaute toute la direction sportive, mais quand même très lié à l'effectif professionnel, Cédric Dory était là également. Donc ça montre que c'est pas seulement une histoire de centre de formation à centre de formation, c'est qu'il y a une vraie passerelle de la formation de Brétigny jusqu'à devenir professionnel à la GIA. Et ça pour moi c'est un détail qui compte vraiment, c'est l'implication de la GIA dans ce partenariat.
Et moi, je vais même vous dire que le premier renouvellement que j'ai fait il y a 3 ans, je crois, Giroud était présent.
Ouais.
Donc, c'est un vrai partenariat fort, important, mais comme je vous le disais tout à l'heure, qui n'est pas exclusif, parce que voilà, on ne peut pas se permettre.
On parlait des retours d'expérience entre éducateurs et éducateurs entre Brétigny et Auxerre. Est-ce que vous essayez d'organiser des retours d'expérience entre les joueurs passés par Brétigny et qui sont devenus professionnels et les jeunes joueurs qui sont actuellement à Brétigny? Est-ce que par exemple, je sais pas, vous demandez on peut prendre plusieurs joueurs, hein, mais à un Donovan Léon ou à un Ricardo Fati ou Jacques Fati ou à ce type de joueurs s'ils ont la possibilité de passer au club lors de vacances, lors des trêves, etc., de venir parler un peu avec les jeunes footballeurs, leur apporter leur expérience, etc.
C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais oui, on a Sébastien Allaire qui a fait une vidéo dernièrement entre Brétigny pour Brétigny et le renouvellement du partenariat avec la GIA. On a Paul Georgentep aussi qui a parlé. Là, on a Yanis Begraoui qui s'est déplacé la dernière fois, qui a toujours à cœur lui d'ailleurs de lorsque les petits vont à Auxerre de toujours être là. Pour venir soit regarder les matchs des 17 ans nationaux, soit pour faire des photos avec les plus petits. Donc, il y a ce lien, comme je vous le disais juste avant, ce lien familial entre nous et qu'on retrouve aussi à Auxerre. Et tous les joueurs qui sont passés par Brétigny et qui sont devenus professionnels à Auxerre ont toujours un retour positif et nous donnent souvent, même quand ils deviennent très célèbres, je pense à Sébastien Haller notamment, un retour toujours très positif. Avec une réelle volonté de transmettre aux plus jeunes.
Et ça, j'imagine que c'est un retour d'expérience qui est hyper important aussi pour les jeunes footballeurs, à la fois leur montrer qu'on peut réussir, qu'il y a des exemples dans le club où vous êtes, où vous évoluez actuellement, qui ont réussi. Alors certains sont passés par des chemins divers et variés. Sébastien Haller était pas toujours titulaire à Auxerre quand il est parti aux Pays-Bas et tout le monde s'est dit mais qu'est-ce qu'il va faire aux Pays-Bas dans un club qu'on connaît pas en France, etc. Et puis aujourd'hui il est en première ligue. Et puis d'autres pour lesquels la progression a été plus rapide. On peut penser à un Paul Georgentep qui entre le moment où il a émergé à Auxerre en professionnel et le moment où il a été appelé en équipe de France, et ce moment-là était très court. Je crois que c'est 3 ou 4 ans par exemple. Donc c'est des
Oui,
retours d'expérience qui doivent être très importants aussi pour les jeunes footballeurs.
après, bon, ces joueurs-là aussi ont des emplois du temps un petit peu chargés.
Bien sûr.
Donc forcément, c'est pas toujours évident d'organiser ça, mais de source sûre avec le responsable de la communication qui lui est en lien direct avec ces garçons-là, il y a un vrai retour positif et une réelle envie des garçons de venir nous voir dès qu'ils le peuvent.
Alors, on vient de parler de plein de choses positives. On vient de parler du partenariat avec la GIA, du nombre de clubs professionnels qui se déplacent pour venir voir les jeunes de Brétigny, de la formation de Brétigny, entre guillemets, des éducateurs qui sont toujours demandeurs de conseils, de progresser, etc. Mais dans un club amateur d'Île-de-France, il y a aussi des difficultés, on va pas se mentir, et je pense que vous êtes bien placé pour en parler. Quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez au quotidien en tant que club d'Île-de-France?
Il y en a tellement.
Par lequel commencer? C'est ça la question en fait.
Il y en a tellement. Comme on l'a dit au tout début, on a une vraie concurrence très féroce, notamment au niveau des jeunes, avec les clubs d'Île-de-France, avec souvent des clubs qui utilisent des moyens pas très ni loyaux ni légaux. Le foot a évolué en fait. Je me rappelle que ce soit le rôle d'éducateur ou que ce soit le football en général, il a évolué. Moi, quand j'étais joueur en pupille, en cadet, en mini, et aujourd'hui, il y a énormément d'intervenants qui tournent autour des terrains. Et notre rôle à nous, il est de protéger les garçons. Les éducateurs doivent protéger les joueurs, parce que et notamment dans des clubs comme le nôtre. Et il n'y a pas que le nôtre. Je pense notamment à beaucoup de clubs en Île-de-France où il y a énormément de personnes qui rôdent autour des terrains et qui sont pas toujours bienveillants. Et à 13, 14, 15 ans, c'est très facile de retourner le cerveau des enfants.
C'est ça la rançon de la gloire actuellement de l'importance des jeunes footballeurs en France?
On est obligé d'être vigilant. C'est obligatoire, mais c'est pas évident parce que. Parce que vous avez beaucoup de garçons à gérer, parce que vous avez vos matchs à préparer, vous avez vos séances d'entraînement à préparer. Voilà, mais c'est un vrai fléau dans le foot moderne, ça.
Et on peut parler aussi du volet financier, peut-être, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, bah, c'est compliqué déjà pour des clubs professionnels. Donc pour des clubs amateurs, j'imagine que ça doit être aussi compliqué de réussir chaque année à boucler son budget de manière confortable et aisée. Là, on sort d'une crise, enfin on y est toujours plus ou moins quand même dans une crise sanitaire qui a beaucoup perturbé le monde sportif, mais aussi toute l'activité économique d'un pays. Et on sait que les clubs amateurs vivent beaucoup à la fois de subventions publiques entre guillemets, donc ça, alors je disais le secteur des entreprises, mais aussi le secteur public hein, qui a été touché. Donc il y a les subventions publiques, il y a aussi le sponsoring et l'aide des entreprises. Comment on réussit à se débrouiller à Brétigny dans la période actuelle pour toujours continuer à viser l'excellence dans une période économique qui est pas évidente?
Nous aujourd'hui, Brétigny, ça fonctionne un peu comme une entreprise. Hein. C'est une entreprise et comme dans toute entreprise, vous avez un capitaine à la tête. Donc à partir du moment où vous avez un capitaine qui gère l'entreprise, vous avez forcément des résultats qui sont plus ou moins bons selon la gestion du capitaine. Nous on a un nouveau président qui est jeune et dynamique, qui est venu nous rejoindre. Il n'y a pas très longtemps, mais on avait un président auparavant qui est resté des années, Monsieur André Briand, qui a fait un boulot extraordinaire pour pouvoir donner des moyens au manager général qui a monté toute la structure que vous avez aujourd'hui au club, que ce soit le sport études, que ce soit le niveau sportif avec toutes les équipes qui sont montées en nationaux. Faut quand même rappeler que la saison dernière, on est monté en N3 avec une moyenne d'âge de 22 ans.
Ouais.
Donc on est quand même un club qui fait énormément confiance aux jeunes et forcément on n'a pas le choix parce que le budget ne nous permet pas de faire différemment. Donc aujourd'hui moi je peux pas trop rentrer dans les détails financiers parce que c'est pas mon domaine.
J'imagine, ouais.
Moi je suis plutôt sur le domaine sportif des jeunes, mais voilà, je sais que on a des moyens financiers qui sont bien inférieurs à beaucoup de clubs en Île-de-France qui jouent au même niveau que nous.
Et généralement, on dit dans ce cas-là, bah, quand on n'a pas les mêmes moyens financiers, c'est les idées qui comptent, quoi.
Bah déjà d'une part, et puis d'autre part, il faut aussi mettre les choses dans l'ordre, c'est que il y a pas énormément de clubs en Île-de-France aujourd'hui qui ont leurs seniors à un haut niveau fédéral et leur équipe de jeunes au plus haut niveau de ligue, voire au niveau national.
C'est une vraie fierté du coup pour vous d'avoir toujours ces. Alors on parle beaucoup des U17 hein, parce que ça fait un peu plus de 20 ans, c'est ça qu'ils sont au plus haut niveau au niveau national.
27 ans.
27 ans, ouais. C'est quoi? C'est aujourd'hui c'est la vraie vitrine. Alors c'est un peu difficile parce que quand on est en N3 quand même c'est une belle vitrine aussi pour l'équipe senior. Mais les U17 nationaux en termes d'équipe de jeunes entre guillemets c'est la vraie vitrine aujourd'hui de Brétigny.
Oui, c'est une vitrine. Après, vous savez, c'est aussi ce qu'on explique aux éducateurs qui nous rejoignent chez nous. Un éducateur qui vient chez nous, il vient pas pour une équipe, il vient au club. En fin de compte, Je vais vous dire que les 17 ans nationaux, c'est une vraie belle vitrine et elle est importante puisqu'on est le seul club en Essonne à avoir les 17 ans nationaux. Mais on est aussi l'un des deux seuls clubs amateurs, par exemple, en Île-de-France, à avoir les 17 ans nationaux et les U16-R1. On n'est que deux clubs amateurs à avoir ça aujourd'hui. On a dans chaque catégorie deux équipes de ligue, U14 jusqu'au U18. Donc oui, les 17 ans nationaux, c'est une vraie fierté. Mais on a aussi notre équipe senior qui est en National 3 et on a surtout un club aujourd'hui qui permet d'avoir une vraie vitrine, mais dans toutes les catégories en fait.
Aujourd'hui, avec votre rôle de coordinateur des équipes de U14 à U18, quelles évolutions vous aimeriez apporter à ces équipes-là? Alors ça peut être dans question de structure, d'outils, de moyens éventuellement, dans un futur, disons, à moyen terme, quelles sont les évolutions que vous aimeriez voir dans ces équipes-là?
Bah, vous savez, nous, on a une politique sportive bien établie par le manager général du club. Donc, on la suit. On n'a pas vraiment d'idées qui arrivent comme ça. On a des réunions où on va parler de l'évolution. Là, on a deux nouveaux terrains synthétiques qui nous arrivent, qui vont nous être livrés pour la saison. Donc, je pense que c'est deux très beaux outils qui vont nous permettre d'avoir des infrastructures dignes de ce nom, puisqu'on va se retrouver avec trois terrains synthétiques et deux terrains en herbe. Donc, on commence à avoir je veux dire, on a des structures vraiment qui parlent un petit peu. Et puis, on a une ville aussi qui évolue, une population qui évolue. Et donc, par conséquent, on est obligé de s'adapter. Aujourd'hui, on a des féminines, on a du football d'élite, on a du football loisir. Voilà, tout le monde a le droit de jouer au foot. On sait que c'est le sport le plus populaire, c'est l'endroit où le troisième endroit après l'école où les garçons et les filles se retrouvent. Donc c'est important d'avoir des projets d'évolution, mais dans quelles caractéristiques ils vont arriver, ça c'est pas moi qui détient la clé.
On dit souvent que la jeune génération a beaucoup plus de sollicitations aujourd'hui que, alors, par exemple, la mienne qui grandit dans les années 80-90 pouvait avoir. On sait qu'aujourd'hui, il y a, alors, par sollicitation, j'entends capacité à avoir des loisirs totalement différents. On a aussi les sollicitations jeux vidéo, réseaux sociaux, téléphone, avec des risques d'enfermement et d'isolement qui sont, selon les sociologues, assez réels quand même. On a des pays qui ont notamment découvert que, par exemple en Italie, un pays que je connais bien, qu'il y a de moins en moins de football de rue, entre guillemets, c'est-à-dire des enfants qui sont capables de jouer dans la rue jusqu'à 22 h, comme nous on était capable de le faire, sans vouloir faire vraiment de comparaison ou une quelconque anachronie. Voilà, ce serait un peu délicat. Mais est-ce que vous ressentez ça aussi avec les jeunes? Est-ce que vous avez vu cette évolution de parfois peut-être des jeunes un peu moins passionnés, parfois moins de jeunes qui veulent s'inscrire dans les écoles de football? Est-ce que vous notez ça aussi?
Non.
Pas du tout.
Non, pas du tout. Contrairement à l'Italie, je pense que c'est aussi ce qui fait notre force. Et pourquoi est-ce on est un vrai vivier au niveau mondial? C'est parce qu'on a justement ces garçons qui jouent au football jusqu'à 22 h dans leur quartier, sur des city stades, qui travaillent leurs gestes techniques, qui se retrouvent entre copains. Et encore une fois, on ne peut pas avoir que de la compétition. Il y a cette notion de plaisir qui doit rentrer en ligne de compte et qui doit être primordiale. Un joueur chez nous qui va devenir professionnel, il va pas devenir professionnel forcément pour gagner beaucoup d'argent. Il va devenir professionnel parce qu'il y a une notion de plaisir. Il va aimer jouer au foot. Il va avoir envie de faire ça. Il va avoir envie d'en faire son métier. Alors la notion financière rentrera après, mais la première des choses, c'est parce qu'il aime ça.
Et justement, pour corroborer vos propos, je discutais avec des formateurs néerlandais il y a quelques mois maintenant qui sont passés par l'Ajax notamment, et qui m'expliquaient qu'ils enviaient notamment la France pour ça. C'est qu'ils constataient, et notamment en Île-de-France, mais valable aussi pour, on va dire, les grandes agglomérations, c'est encore d'avoir beaucoup de jeunes qui jouent au football de rue, qui jouent dans les city stades. Et eux, ils disaient qu'aux Pays-Bas, ils avaient un peu perdu ça. Et que c'était vraiment dommage, parce que normalement, à Amsterdam, il y a beaucoup de city stades, beaucoup de quartiers où il y avait toujours un terrain de foot, etc. Et ils disaient qu'ils avaient un peu perdu ça, et que la principale chose qu'ils enviaient, entre guillemets, à la France, c'était cette capacité d'avoir des gamins qui ont le pied collé au ballon quasiment toute la journée.
C'est vrai. C'est vrai. Et moi, je préfère vous dire que je préfère voir les garçons en train de jouer au foot toute la journée qu'en train de faire autre chose dans la rue.
Bien sûr.
Donc, c'est aussi ça le rôle des éducateurs, et c'est aussi ça le rôle aussi des pouvoirs publics, c'est de pouvoir permettre aux garçons de leur donner des installations où ils puissent aller taper dans le ballon, où ils puissent jouer, parce que quand ils jouent au foot, ils font pas autre chose.
Et ça, c'est vrai, c'est un marqueur aussi, hein, quand des jeunes enfants sont au foot et jouent au foot entre passionnés, etc., ils sont pas en train de se demander ce qu'ils ont à faire. Et ça, c'est vrai que c'est hyper important dans le rôle éducationnel, notamment aussi des pouvoirs publics. On arrive au bout de l'entretien, Stevens, et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimeriez-vous entendre à mon micro dans les prochaines semaines? Alors, soit vous avez un nom, voilà, vous me dites, bah, j'aimerais bien entendre telle personne parce que pour des raisons diverses et variées. Soit ça peut être un métier en particulier, parce que ce podcast s'intéresse un peu à tous les métiers, formateur, éducateur, recruteur, agent, jardinier, préparateur physique, mental, nutritionniste, entraîneur, j'en passe des meilleurs. Et auquel cas, vous pouvez me dire, bah, sur tel métier, j'aimerais bien que vos auditeurs découvrent un peu les tenants et les aboutissants de tout ça.
Moi, j'aimerais bien entendre Zinedine Zidane, parce que je suis un grand fan. Alors, je pense que je suis pas le seul, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que je suis très admiratif en tant que j'étais, je l'étais en tant que joueur, mais je le vois aussi maintenant d'un autre œil depuis qu'il est devenu entraîneur, et j'ai suivi aussi la manière dont il s'est formé, et c'est un petit peu ça que je voudrais relever, c'est-à-dire que quand on a un, quand on nous à la télé médiatiquement on connaît un homme comme ça. Que tout le monde a adulé et on voit l'humilité qu'il a eue en allant se former, en prenant le temps et on voit aujourd'hui là où il est arrivé et ce qu'il fait. Ouais, un jour j'aimerais bien l'écouter et si vous arrivez à l'interviewer, bah, je serai le premier à écouter, ouais, avec grand plaisir.
Eh bien, je vais faire de mon mieux en tout cas pour essayer de l'avoir à ce micro. Merci Stevens de Gouville pour votre disponibilité, la qualité de cet entretien, et on vous souhaite donc une bonne saison, une bonne prochaine saison au CS Bretigny, en espérant voir plein de jeunes footballeurs s'éclater déjà en premier, hein, c'est une des choses les plus importantes pour les jeunes footballeurs, et puis ensuite réussir à percer. Merci Stevens.
Merci, Johan.
Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est en effet une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Marc Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.